Tout à l'heure, quand on va parler de la Seine-Saëns, je vais faire référence à l'Apocalypse où il est dit heureux sont qui sont invités aux noces de l'agneau. Merci beaucoup. C'est une métaphore. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, l'Église est considérée comme une fiancée, et puis Jésus est considéré comme un fiancé. Et puis il fait la Seine-Saëns avec ses disciples, et puis il dit il partage le sang hein, au travers de la coupe, et puis son corps qui est brisé, et il dit que c'est une alliance, c'est la coupe d'une nouvelle alliance. Et il dit, j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Et l'Apocalypse nous rapporte que le moment où il en boira de nouveau, du nouveau et de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle fois, il boira la coupe de cette alliance, et ce sera un vin nouveau. Et la parole nous rapporte dans l'Apocalypse 19, il dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et les noces, c'était un repas, et dans ce repas, on partageait le vin, on mangeait, et ça va être un vin fantastique. Et puis, il est dit heureux, et donc il s'agit de nous. Il s'agit de nous qui sommes invités. Et c'est pas nous, on vient à des noces, on vient, on va participer. C'est nous, la fiancée. C'est nous, l'objet de l'amour du bien-aimé. Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour que nous soyons une épouse glorieuse, sans rides, sans rien de tu sais, une fiancée magnifique dont il est pris d'amour. Et donc il y a des noces qui sont préparées, et au moment où le royaume viendra, quand on prie que ton règne vienne, au moment où ce royaume sera fait, ça va commencer par des noces. La première fête, c'est les noces, l'époux qui vient. Et je voudrais vous dire une chose, écoutez bien ceci, dans la culture juive, les noces ne sont pas du tout comme nous les vivons. Curieusement, nous, on se débrouille, à cause d'un héritage certainement dans la honte, on se débrouille pour que la question sexuelle se fasse après que tout le monde ait mangé, bu, dansé, tout ça. T'es bien fatigué, mais bien fatigué. Tu as tout préparé des heures et des heures, t'es fatigué, et puis c'est là où tu peux profiter un peu de ce pourquoi on a fait la fête. Mais dans la culture juive, écoutez-moi bien. Écoutez bien, avant que les noces, qu'on puisse boire, qu'on puisse danser, qu'on puisse manger, le couple allait dans une chambre nuptiale, faisait l'amour, et tout le monde attendait. Ça met un peu la pression, quoi, vous voyez? Mais tout le monde attend. Et alors, je ne sais pas si les murs étaient insonorisés, mais bon, on attend. Et puis, les noces ne commençaient qu'à partir du moment où ils avaient fait l'amour. Et puis, on prenait ce drap avec le sang. Et les parents étaient fiers, vous savez? Parce que lorsque le sang a coulé sur les draps, les époux, bon, ben, ils vont prendre la douche, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Tout le monde rentre dans la salle nuptiale, récupère ça, et puis c'est le trophée. Waouh! Elle était vierge. Elle était bien éduquée. Et donc, les noces ne pouvaient commencer que quand le sang avait coulé. Les noces ne pouvaient commencer. Et donc, la sexualité était placée au centre. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient tous les deux? Tout le monde savait. Tout le monde savait. Tout le monde s'imaginait. C'est-à-dire qu'on est invité et les noces commencent que parce que, eh bien, il va y avoir des rapports sexuels. Et puis, bon, ben, moi, si c'était mon cas, hein, j'aurais bissé. Vous connaissez l'expression bissé? J'aurais mis trois fois, quatre fois, dire, attendez un peu que je profite. Non, vous avez loupé une occasion de dire amen. Le sang coule. Et vous savez, la sexualité dans la culture juive n'est pas, elle n'est pas honteuse. Et quand Jésus dit, bienvenue à ceux qui sont invités aux noces, on parle bien d'un moment d'abord culminant de rapport sexuel. Le rapport, la culture juive n'a pas de complexe avec la question de la sexualité. Alors qu'il s'est trouvé par un héritage sur lequel il faut absolument qu'on vienne le confronter. Parce que nous plaçons la sexualité, on l'évacue. Dans nos noces à nous, on l'évacue. Ouh! Et le lendemain, si tu reviens, tu as un peu honte. Vous voyez, tu arrives, oui, on l'a fait.
Tu sais, de temps en temps, on mange hein, le lendemain, tu sais. Il revient, non, ben, on l'a fait. Puis personne n'ose dire, alors, c'était bien. Alors, le drap, il était rouge. Non, tout le monde... C'est pas, là, ça, on s'en occupe pas. Les parents, ils étaient fiers qu'elle était vraiment vierge. Non, ça, on s'en fiche, on parle pas.
Bienvenue aux noces de l'agneau, dans la culture juive. Quand Jésus parle aux juifs, on dit bien que ça commence par un moment sexuel. Et c'est après qu'on débouche la bouteille. C'est après qu'on célèbre, qu'on mange. C'est après qu'on danse. C'est après. En fait, c'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 5, Jésus, il prépare une épouse glorieuse. Elle est revêtue d'un habit glorieux de justice et de gloire. Elle est sainte, elle est pure, elle est sans tache, elle s'est préservée. En fait, le Saint-Esprit, en ce moment, il est en train de préparer l'épouse. Il veut la garder pure, sans distraction, sans partage, son cœur pur pour Jésus. Et quand les noces auront lieu, c'est une épouse qui se donne à lui à 100%. Et ce fameux sang qui coule, entendez bien, il a un rapport à l'alliance. C'est le sang de l'alliance. Et son sang a coulé. Et notre sang coule d'engagement en tant qu'épouse pour lui dire « Je suis à mon bien-aimé ». Et donc tout à l'heure, vous voyez comment que je replace la sexualité dans le cœur du message de l'évangile. On parle de noces. Sinon on pourrait dire, bon, on va faire autre chose. Non, non, l'image, elle est bien juxtaposée à la culture juive. Et mon thème ce matin, c'est l'éducation sexuelle. Nous avons la responsabilité, comme le Saint-Esprit a la responsabilité, de faire de l'Église une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous avons la responsabilité en tant que parents d'éduquer nos enfants pour que leur virginité soit un cadeau qu'ils offrent à leur bien-aimé. De la même manière que Jésus, le Père, le Fils sont consacrés à cela, nous préparer, nous sanctifier. Leur mission, c'est nous sanctifier. Pour qui? Pour le bien-aimé. C'est pas se sanctifier à cause de la loi, parce que si je pèche, eh bien, le Père va me punir. Il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une épouse glorieuse, qui est amoureuse et qui se préserve pour son bien-aimé. C'est une question d'amour, c'est pas une question de loi. Vous me suivez là? C'est très important ce que je suis en train de dire. Nous avons la responsabilité pour nos enfants de développer une culture, de développer une approche en rapport à la sexualité qui va faire en sorte que quand ils arrivent à la nuit de noces, ils sont fiers d'offrir un cadeau. Il y a une fierté, non seulement eux, mais les parents sont fiers de dire « Mon enfant a capté le principe biblique de se garder pur. » C'est pas religieux, c'est pas honteux, c'est le plan de Dieu. Pour y arriver, ça prend tout un changement de paradigme, de rapport, notre rapport à la sexualité, notre rapport à nos enfants avec la sexualité, de telle sorte que ça produise au-dedans d'eux, waouh, je veux me garder pur, pas pour dire, oui, il faut tenir, oh là là, Dieu va me punir, non, je sais la dignité, j'ai compris l'intention de Dieu, et à cause de cela, waouh, je vais offrir à mes enfants, oui, moi, je vais offrir à mes enfants, mais mes enfants vont comprendre qu'il s'agit d'offrir un cadeau, et d'être fier, et moi, je serai fier. J'ai testé mes enfants, je les ai appelés pour dire, alors, est-ce que ça a produit du fruit ce que je vais prêcher? Parce que vous comprenez, c'est un peu la honte. Si mes enfants disent « Non, papa, on a du mal avec ça. » J'appelais ma fille. Elle me dit « Papa, oui, ça a produit ça. Aujourd'hui, donner ma virginité à mon futur fiancé, à mon mari, c'est une fierté. » J'ai dit « Waouh, Seigneur, tu m'as fait grâce. » Ce que je vais prêcher, c'est pas juste des paroles. C'est quelque chose que j'ai vécu parce que ça engage quoi. Ma fille a 22 ans. C'est 22 ans de vie. Je vais essayer de résumer ça en une demi-heure. J'espère que je vais y arriver. Mais c'est tellement important. Je vais vous dire une chose, on va y revenir dessus régulièrement parce que c'est fondamental. Si des croyants ne s'engagent pas à éduquer leurs enfants aussi dans la dimension sexuelle et du coup eux-mêmes être dégagés, délivrés de la honte, si eux-mêmes ne font pas un travail sur eux, ils vont transférer malgré eux un mauvais héritage. Donc c'est tellement important que les parents, on a parlé aux célibataires, moi dimanche dernier, on a parlé aux couples, c'est Jérémy qui l'a fait, on a fait une introduction d'ordre général, mais je voudrais parler aux parents. Nous sommes tous, même si on est célibataire, demain, si on se marie, on deviendra parents. Et c'est fondamental. Et le but, c'est de lutter contre une perversion. La sexualité est pervertie. On a une perversion de la sexualité, mais il y a une bonne version de la sexualité. Le grand souci, sur tous les sujets tabous, c'est que parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension, on décide de ne pas en parler. C'est pas parce qu'il y a une perversion que l'Église ne doit pas donner la bonne version. Sur l'argent, sur l'autorité, sur la sexualité, et même sur la politique. On est en train de préparer une série sur la politique, figurez-vous. On a décidé de parler dans l'Église de la politique. Pas pour vous dire qu'il faut voter, mais pour connaître la vérité biblique sur le rapport à des personnes qu'on va élire. C'est un choix. Parce que le royaume de Dieu doit venir dans absolument tous les domaines de nos vies. La lumière doit se faire. Je lutte. Nous luttons contre une perversion. Et le but, ce n'est pas de dénoncer les perversions. C'est d'allumer une lumière. J'aime bien ça. Ce n'est pas Jésus qui l'a cité, mais c'est Confucius. Au lieu de maudire les ténèbres, allumons une lumière. Et notre Église n'est pas là pour maudire les ténèbres. Notre Église n'est pas là pour juste dénoncer et dire en mode « Ouais, ouais, non, mais c'est le péché. » Non ! Allume la lumière. Parce que je vais vous dire, si nous sommes la lumière, si nous nous allumons, si nous en parlons de la lumière, de la révélation de Dieu, comment Dieu pense sur un sujet, qu'est-ce que Dieu pense sur un sujet donné ? Ça, c'est la lumière. Si nos familles sont la lumière en disant la manière dont nous vivons la sexualité en tant que couple, la manière dont nous éduquons nos enfants et qu'ils arrivent fiers à donner un cadeau, c'est une révélation. Nous sommes la lumière du monde. Oh, vous avez loupé une occasion encore une fois. Parce que nous incarnons, nous vivons la révélation de la lumière, de l'intention de Dieu, parce que c'est vécu et que c'est vécu avec liberté. C'est pourquoi moi je suis libre sur la question. C'est pas pour provoquer, c'est parce que j'ai décidé que si je connais mon Dieu et que je vis dans la lumière et dans la sainteté, je n'ai pas à avoir honte, ni de complexer, ni d'être dans... Vous savez, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de vulgarité. Mais moi, on ne viendra pas me voler la liberté d'en parler, de le vivre et de dire que c'est bon et c'est très bon et que c'est excellent. C'est un cadeau de Dieu. Donc nous sommes la lumière. Mais nous ne sommes pas la lumière, c'est pas un concept de dire vous avez la lumière. Ah ouais, on a la lumière. Non, la lumière c'est quoi ? J'allume la lumière au milieu des ténèbres. C'est-à-dire ce que je vis devient une lumière, pas parce que je le dis, mais parce que je l'ai compris, je l'ai saisi, je suis libre et je deviens une inspiration, un modèle où les gens ils me disent oh, on est un peu bousculé par votre approche. Mais justement, ça va interpeller, pas parce que tu fais juste des œuvres, mais parce que tu es la lumière. La révélation que Dieu t'a donnée devient une lumière pour les autres. C'est fondamental, c'est très important. Et il faut que les parents, du coup, s'engagent dans cette voie. Sortir du silence et mettre la lumière. Alors du coup, moi, vous savez quoi ? Pour ceux qui me connaissent de près, je suis j'en ris. En général, quand on rit d'une chose, c'est qu'on est détendu, vous voyez ? J'en ris avec mes enfants. J'en ris. Sans vulgarité, je vous garantis qu'il n'y a pas de vulgarité. Mais j'ai compris après coup que parce qu'il y a une compréhension, une révélation, la liberté me permet et d'en rire, et d'en parler, et de le vivre. Et puis de susciter des questions, de provoquer, puis de conduire à la liberté, puis d'engager d'autres à cela. Et c'est très, très important. On va lire le premier verset que j'ai choisi pour l'éducation sexuelle. C'est dans Malachie, et ça résume le ministère prophétique. Ce sont les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Je trouve ça extraordinaire. Qui annonce le but et la mission d'un prophète. Je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, avant que le royaume de Dieu ne revienne. Ce jour grand et terrible, il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne pour frapper le pays et le vouer tout entier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Le ministère prophétique dans le Nouveau Testament va encourager à ce qu'il y ait des réconciliations entre les parents et les enfants. En fait, l'éducation sexuelle, notre manière de ramener la réconciliation, d'être libre, il ramène ton cœur pour pouvoir parler librement avec tes enfants, et il ramène le cœur de tes enfants pour que tu puisses leur parler librement, mais d'absolument tout, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et pour moi, dans les saisons qui viennent, le Seigneur va conduire à ce que les ministères prophétiques ne viennent pas que pour prophétiser sur des gens, pour dire ton avenir un peu passé, présent, puis avenir, non. mais conduire l'Église à vivre une réconciliation, pouvoir inviter le royaume de Dieu à rentrer là dans le cœur de la relation des parents et des enfants pour que ça les conduise eux-mêmes à rentrer dans le royaume de Dieu et de le vivre selon le royaume de Dieu. Slide suivante, s'il te plaît. Je viens de le dire. Si nous vivons, vous êtes la lumière du monde. Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, et la sexualité doit se vivre dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, encore une fois, nous sommes purifiés de tout péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous allons vivre dans la lumière, sur la sexualité, nous pouvons être en communion avec nos enfants, nous pouvons vivre un moment de réconciliation avec eux, et exercer notre ministère pour qu'eux soient dégagés, libérés d'un mauvais héritage, qui viendrait même de nous-mêmes, ou de nos parents, ou de la société. Et c'est tellement important que avant que la société, écoutez bien ce que je vais dire là, avant que les copains posent les fondations dans la pensée de tes enfants, avant qu'un professeur à l'école n'aborde le sujet, ou qu'un groupe d'éveil, de prévention au niveau de la sexualité aborde le sujet avec tes enfants, avant qu'un oncle, un parent, quelqu'un qui ne partage pas la foi aborde la question avec tes enfants, prends le temps toi-même, comme un responsable, comme un pasteur de ta maison, de poser les bonnes fondations, de l'aborder avec liberté. De telle sorte qu'au moment où quelqu'un d'autre voudra lui dire, il lui dit, c'est déjà occupé au-dedans de moi, les fondations sont posées dans ma vie, eh bien la vérité, je la crois, parce que je l'ai reçue de mes parents qui eux-mêmes m'ont donné une révélation qu'ils vivent en liberté. Et c'est la réponse que je donnerai en face de celui qui voudra poser un autre fondement que celui qui a été posé par des parents. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est tellement fondamental qu'on occupe le terrain. Alors le problème, c'est que mais c'est gênant, on va donner un bouquin. On va dire, tiens, je vais trouver un bouquin sur comment aborder la sexualité avec les enfants, ou tiens, un bouquin pour ados, puis lui dit, écoute, tiens, lis. Puis on dit, le boulot est fait. Et si tu as des questions, elle revient. Puis on se dit, non, mais surtout, j'espère qu'il n'aura pas des questions. J'espère que le bouquin donnera les réponses à toutes ces questions. Alors que ça doit se passer dans une dynamique relationnelle. Les parents ont besoin d'aborder le sujet ouvertement pour poser les bonnes fondations. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va les poser. Et c'est dangereux que ce soit quelqu'un d'autre qui pose les fondations alors que Dieu te donne la responsabilité de le faire. Point suivant. Slide suivante. Dans 1 Jean, et ça va nous concerner très concrètement. Dans 1 Jean, il nous est dit, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Vous savez, tout ce que nous faisons, que nous le disions, que nous ne le disions pas, nous transmettons, nous annonçons à nos enfants ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, expérimenté. Nous l'annonçons. Et la manière, ce que nous disons, vient de ce que nous avons touché, vu, entendu, et que nous le voulions ou non, nous le transmettons. Maintenant, ma question aujourd'hui, c'est aller visiter ce que tu as touché, ce que tu as expérimenté, ce que tu as vu, ce que tu as entendu sur la sexualité. Parce que c'est ça, consciemment ou inconsciemment, que tu annonces, que tu transmets et avec qui tes enfants sont en communion. Nous retransmettons aux autres ce qu'on a entendu, vu, touché de nos parents qui nous l'ont transmis. Même s'ils n'ont rien dit, ils nous l'ont annoncé et nous sommes héritiers de cela. Ce que je suis en train de dire, il est important que vous vous arrêtiez pour dire qu'est-ce que moi-même j'ai touché, vu, entendu au niveau de la sexualité, faire un travail sur toi, te poser, être libre de cela pour pouvoir maintenant l'aborder avec tes enfants pour dire je t'annonce une chose. Dans ma vie, Dieu m'a touché, Dieu j'ai entendu, j'ai vu, j'ai expérimenté et je le transmets. Si tu ne t'arrêtes pas pour savoir ce dont tu es dépositaire, tu vas transférer sans le vouloir des choses que tu ne voudrais pas si tu t'en rendais compte. Tu es peut-être dépositaire de honte envers la sexualité. Tu as peut-être déduit, entendu, vous savez, par éducation, quand on t'a éduqué, par exemple, et là je passe à une transition rapide, on t'a éduqué, on a dit, au niveau de nos enfants, on a dit, ah ça c'est le bras, bras, ok. Ça c'est la main, ah oh, main, ok. Ça c'est la tête, oh la tête, ok. Ça c'est la bouche, oh, ok. Et ça c'est le zizi. Zizi,
Pourquoi, quand on arrive au sexe, on dit non, on ne peut pas lui dire le vrai mot? Je ne sais pas si vous me suivez là. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut bien dire que si tu es en train de dire, ouais, ça c'est la tête, ça c'est les cheveux, ça c'est les si, et puis ça là que tu vois là, ouais. On trouve un autre mot. Je ne sais pas quel mot. On invente un mot, zizi, comment on dit? Voilà. On dit foufoune aussi. On invente des mots. Ces mots-là révèlent quoi? Un malaise par rapport à la question. Mais si tu l'abordes ouvertement, tu dis, ben ça, c'est un pénis. Ah ouais? Et ça sert à quoi? Ben ça sert à ça. On va passer la vidéo là, vous allez voir. J'ai vu un film qui... Pourquoi vous riez? J'ai loupé un truc? Vous vous demandez ce que je vais passer? Non, je vais l'introduire. Attends, je vais l'introduire. En fait, c'est un film qui s'appelle Captain Fantastic. Ah, vous l'avez vu? Bon, eh bien, ce film, écoutez-moi bien. Je trouve qu'il est venu me chercher parce que le réalisateur a voulu nous mettre à la figure que l'éducation occidentale a vraiment des mauvaises valeurs, en vérité. Et là, c'est un couple qui a décidé d'éduquer leurs enfants, mais dans un autre contexte que le contexte occidental et le modèle occidental. Donc il y a un conflit entre leur approche, dont on pourrait, sur certains points, s'inspirer grandement, d'autres non. Mais au moins, ça suscite une réflexion. Et il y a une séquence d'une minute sur l'éducation sexuelle.
What does rape mean?
When a person, usually a man, forces another person, usually a woman, to have sexual intercourse.
Oh.
Who's hungry?
Me.
Me.
What's sexual intercourse?
When a man sticks his penis in a woman's vagina. Everyone keep their eyes peeled for deer.
Why would a man stick his penis in a woman's vagina?
Because it can give them both pleasure. And because the combination of a man's sperm and a woman's egg can create a baby and continue the human race.
But that's where she pees.
Pee comes not from the vagina, but from the urethra, which is within the outer labia. But generally speaking, yes, that is where she pees. Everyone keep your eyes open for game of any kind.
Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il a une grande liberté de parler du sujet de la sexualité de la même manière qu'un autre sujet. C'est-à-dire qu'au moment où un enfant est curieux sur la question de la sexualité, le parent est prêt de dire oui, il s'agit d'un pénis et puis il y a du sperme, un enfant vient de ceci et ça fonctionne comme cela, et c'est abordé positivement. C'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet où dès qu'on l'aborde, ouais, tu comprends, non, je sais pas, vas-y, non, on passe à autre chose. On rougit, on n'est pas bien, mais pourquoi? L'avantage, dans ce film, il envoie du lourd en disant, ok, ben voilà. La première question, c'était mais c'est quoi un viol? Ah ben, il explique ce que c'est qu'un viol. Et puis, ah ben, tiens, la relation sexuelle, c'est quoi une relation sexuelle? Puis il explique ce qu'est une relation sexuelle. Et en le disant, il dit, waouh, un homme et une femme prennent du plaisir. Un enfant qui entend ça, il dit, waouh, ben, la relation sexuelle, c'est beau. C'est bon, c'est juste, c'est un cadeau. Mais dès que tu as un malaise, que tu le dises ou non, tu es en train de dire « ouais, mais il y a un problème derrière cette question-là ». L'éducation ne se fait pas simplement dans ce que tu dis quand tu t'assois, c'est tout le reste qui renvoie un message. Ce que tu as touché du doigt, ce que tu as vu, vous savez, si on a vu des scènes, moi, il y a des scènes qui ont été vues, alors pas mes parents, mais d'autres scènes, des frères, des sœurs. Toutes ces choses viennent former en nous notre rapport. Soit c'est de l'envie, soit on est en lutte, soit on n'est pas bien. Et puis ce malaise-là, si on ne le traite pas, se transmet à nos enfants. Donc il est tellement important d'aller à l'intérieur de nous, savoir ce qu'on a vu, touché, nous-mêmes expérimenté, entendu sur cela, puis aller le visiter. Et souvent, notre comportement est fonction de la manière dont nos propres parents nous ont transmis la question de la sexualité. Et c'est en nous, on ne sait même pas, on ne le comprend pas. Et on a des réactions dont on est héritier et puis qu'on transmet alors qu'on ne veut pas, lorsqu'on prend du recul et puis qu'on réalise que wow, on a un souci quoi. Eh bien, traite-le. Prends le temps même s'il faut de demander pardon à tes enfants.
Mais du coup, transmet ce qui est bon. Vous savez, elle a quoi? Elle a quoi? 9 ans, 10 ans? Avec que confirme. 9, 10 ans. Ouais. Il y a des âges pour aborder. À 3 ans, on peut commencer à en parler. Un enfant, quand il prend conscience de sa sexualité. Et puis, étape après étape, il y a des livres, oui, pour des parents, pour l'éducation des parents, pour que les parents sachent éduquer leurs enfants. Il existe des livres. Étudiant, occupant l'espace, changeant nos paradigmes, de telle sorte qu'on puisse transmettre à nos enfants quelque chose qui est constructif et qui correspond à l'intention de Dieu, à la volonté de Dieu. Et s'il est nécessaire que vous consultiez personnellement ou en tant que parent, faites-le. Si ça peut être pour vos enfants. Vous savez, des fois, pour les enfants, les couples sont prêts à en faire des choses. Des fois même, ils restent ensemble pour les enfants. Eh bien, pour vos enfants, consultez. Le but, c'est que si vous êtes dégagé, vous allez transférer une bonne chose à vos enfants. L'important, dans notre cas, dans notre vie de couple et de famille, ça a été de dire à nos enfants que la Bible parle de la sexualité positivement. Il faut que l'enfant, en rapport à la sexualité, sache que les parents le vivent librement et que la Bible en parle positivement. Et quand on étudie la Bible, je peux vous dire, si vous étudiez la Bible et que vous voyez qu'en fait Dieu aborde la sexualité positivement et que vous-même vous êtes dégagé, libéré, prenez le Cantique des Cantiques, mais expliquez que c'est un livre de romance. Ça peut même faire l'objet de partage sur la Bible concernant la sexualité avec vos enfants sur le Cantique des Cantiques. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, il y a une image que j'ai beaucoup utilisée avec mes enfants, étape après étape. Dès qu'ils étaient... Vous savez, jusqu'à 3 ans, je savais pas... Tant qu'on ne pouvait pas communiquer, j'étais un peu embarrassé avec les enfants. Je vous confesse très simplement. Il fallait que ça parle, quoi. Il fallait qu'ils puissent entendre ma pensée, tu vois. Et puis... Très, très tôt sur cette question, je vais vous donner un petit secret. J'allais raconter l'histoire que la sexualité était un cadeau. Et que quand on se mariait, on offrait un cadeau. Je leur disais, vous imaginez que vous offrez ce cadeau à quelqu'un et ce n'est pas la bonne personne. Elle déchire le cadeau et puis au moment donné, tu réalises que ce n'était pas la bonne, tu reprends ton cadeau, tu l'emballes de nouveau mais tu mets des scotchs. Puis après, bon, t'as ton cadeau, c'est quand même un beau cadeau, quand même un beau cadeau. Puis tu l'offres à quelqu'un d'autre, puis il refait la même chose. Ouais, non, ça me plaît pas. Tu ramasses ton cadeau, tu le remets. Vous savez, ce genre d'histoire-là. Oh ! Donc en fait, ma sexualité, c'est quelque chose de beau. Je vais vous dire, ça les a gardés. Parce que je suis en train de leur dire, hey, c'est beau. Dieu dit de la sexualité, c'est magnifique. C'est quelque chose que quand tu seras dans l'alliance, tu vas t'éclater avec ça. C'est vraiment, regarde, le Cantique des Cantiques, l'histoire. Waouh. Mais attention, faut pas l'offrir à n'importe qui. Il faut l'offrir à la bonne personne. Et quand tu lui offriras, il recevra un cadeau magnifique. Ça va sceller votre alliance. À 3 ans, ils ont écouté. À 5 ans, ils ont écouté. À 7 ans, ils ont écouté. À 10 ans, ils ont écouté. À 15 ans. Puis aujourd'hui, j'ai le fruit. Pas que par cette histoire, mais par ça et tout le reste, qui dit, c'est un cadeau que tu offres. Et celui qui recevra ça, il devra être digne de cela. Je ne sais pas si vous voyez comment que ça forme l'approche de valoriser ce que Dieu nous a donné. Si ton rapport au corps, au sexe, à la relation, ce que tu vis toi-même et ce que les autres vivent. Par exemple, on s'en est devant la télé, puis il y a une scène. On regarde un film, puis d'un coup, il y a une scène. Si tu bondis de ta chaise, tu te mets devant la télé comme ça. L'enfant dit, mais il y a un problème. Là, c'était la séquence où ils faisaient des bisous, puis ça passait à autre chose. Et moi, en général, je dis, t'as vu, ils vont s'éclater. Non, mais comprenez bien. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas aller trop loin quand il faut. Oh, on accélère. Mais l'attitude qui... Non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est réservé quand même, tu vois. Ok, tu accélères. Mais je suis détendu quand on regarde un film comme ça. Ma réaction en face de ça est un message. Vous me suivez là? Ce que tu dis, comment tu l'expliques, la manière dont tu réagis, ou pas, si tu es toi-même gêné. Oh, oh, ce qu'il fait, oh là là, ça c'est ce que, tout ce que tu vas dire, que tu dis pas, t'es gêné, pas gêné, mais le gamin, il est faire ça. Il dit, oh, il y a un truc, et puis c'est, et ça a du nez. Il a du nez, il dit, ouh, il y a un truc, on sait pas ce que c'est. Et puis il y a la machine qui se met en route, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Gêne. T'as peut-être vécu un abus, des choses, des tas de choses qui font que ça transparaît. Si tu maîtrises pas ça, si t'en es pas guéri, tu le transfères. Et je vous ai déjà dit que moi-même j'ai vécu ces traumatismes. J'en ai parlé librement avec mes enfants. Parce que je suis libre, je parle d'un parcours. Je dis, mais en Dieu on peut être restauré. C'est fondamental. C'est fondamental. La sexualité est un sujet comme un autre. Et même plus important qu'un autre, il faut l'aborder avec liberté. Accorder de l'importance à la curiosité des enfants à ce sujet. Soit parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur corps, soit parce que quand tu fais le linge, tu tombes sur un drap taché. Oh, oh, ça y est! Oh, super! Je ne sais pas si vous me suivez là. Waouh, là, tu as commencé à... Ouh, c'est quelque chose là, la mécanique se met en route. Mais oh, le jour où tu vas t'éclater. Et c'est pas, oh, qu'est-ce qui se passe? Machin. C'est un malaise. On n'en parle pas. Oh, et puis tu dis, oh chérie, t'as vu, ça y est. Hein. Ça y est, maintenant, il fait des éjaculations nocturnes et tout ça. Non, on en parle librement. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est de cette manière qu'on transmet un héritage qui est positif. Alors, David dit une chose, et je vais parler de David et on va finir avec ça. David dit une chose que je trouve très forte. À un moment donné, il veut offrir quelque chose à Dieu. Et vous savez, notre relation à Dieu est une bonne analogie pour notre relation avec toutes les relations humaines. Et puis, il veut offrir quelque chose à Dieu. On est dans, mets-moi la toute dernière slide. C'est, je vais le dire maintenant. La toute dernière. Il se retrouve, on est dans un contexte d'adoration. J'aime utiliser ce texte dans l'adoration. Et puis, il va pour offrir un sacrifice à Dieu. Et au moment où il l'offre, il y a quelqu'un qui lui dit, non mais écoute, je te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice. Et il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien, un sacrifice qui ne me coûte rien. Vous savez, ce qu'on offre, le fameux cadeau que je disais que on donnait à son conjoint, en fait, ça a la valeur du sacrifice. Le cadeau que nous offrons à Dieu a la valeur du prix que nous payons pour le donner. Très souvent, ce que nous offrons prend la valeur parce qu'on mesure le sacrifice que ça a coûté. Vrai ou faux? En temps, c'est pas toujours en argent. En réflexion, quelqu'un qui t'offre quelque chose et tu dis « Wow, il y a eu du discernement. » Pour pouvoir trouver ça, il a fallu que tu réfléchisses. « Oh, je vais lui faire un plaisir. Je cherche. » J'ai passé du temps, j'ai passé de la réflexion et au moment où je l'offre, ça prend du poids parce que ça a coûté quelque chose. L'idée à transférer à nos enfants, c'est de dire « Oui, c'est pas facile hein, cette affaire hein, de se maîtriser, de se garder. Mais ta vision, c'est d'offrir un cadeau qui a du poids. N'offre pas un cadeau qui n'a pas de poids. Et le poids, c'est le sacrifice. Oui, c'est du sacrifice. Mais un sacrifice que tu fais avec joie à cause de la valeur que tu veux donner au cadeau que tu offres. Je cite David et je vais terminer avec ça. David, vous savez qu'il a commis un péché. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Et puis, l'enfant qui est né de l'adultère meurt. Et Dieu pardonne. Il pardonne tellement qu'il lui donne un fils qu'il a appelé Jedidiah, bien-aimé de l'Éternel. Je trouve ça très fort. Pour preuve que Dieu a pardonné. Et maintenant, Dieu lui dit, c'est lui qui sera l'héritier. Et David, à une relation dans les Proverbes, on a la compilation des conseils de David à son fils Salomon, le futur roi. Il est en train d'éduquer Salomon à devenir le futur roi d'Israël. Et au moment où il le fait, quand on lit les Proverbes, il y a des tas de sujets. Devinez sur quoi ? La sexualité. David, en tant que roi, prend le temps avec son fils de l'éduquer sexuellement. Et il lui parle. Mon fils, écoute. Vas-y, passe-le-moi là, juste après. Il lui dit, hé, on a beaucoup ça. Et on a l'impression que c'est Salomon qui parle à un de ses fils. Non, c'est David, c'est la compilation des conseils de David à Salomon. Et dans les conseils de David à Salomon, il y a un grand temps, un grand moment consacré à l'éducation sexuelle. Et il dit des choses, mais il a une grande liberté ce David. Vous comprenez pourquoi je l'aime bien moi. Il dit des choses très très fortes. Mais pourquoi dans son mandat de dire, Dieu m'a donné la grâce d'avoir un héritier, et cet héritier, je vais passer du temps avec lui. Parce que moi-même j'ai vécu des chutes, je vais veiller à le lui transmettre. Et il lui dit, mon enfant, fais attention à la sagesse que j'enseigne. Écoute les conseils que mon intelligence te donne. Alors tu les garderas et tu sauras ce que tu dis. Oui, les paroles de la femme d'un autre sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Mais finalement, elle laisse un goût amer, elle blesse comme une épée qui coupe des deux côtés. Après, s'il te plaît. Ta femme est comme l'eau de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seule, ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie. Dans ta jeunesse, elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Mais quand il dit ici, ne laisse pas ta source couler au dehors, là, on parle quoi là ? On parle de sexualité. Et David dit à Salomon, aime la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps, un autre version dit, enivré de ses charmes. Conseil de David. Et il parle librement de sexualité, de rapport. Il dit, fais attention aux étrangères, à la séduction. Et en fait, on ne prendrait pas le temps, nous, avec nos enfants, de veiller à ce que, dans leur développement, ils entendent des conseils de parents qui passent du temps de l'aborder, mais très, très librement. De parler avec poésie. Je ne sais même pas si à l'époque c'était de la poésie, hein. Là, la pulsion sexuelle, c'est comme un vase. C'est comme si l'homme était un vase et puis il allait verser de l'eau ailleurs. C'est-à-dire que c'est un vase en ébullition. Il dit, garde-le à l'intérieur, là. Sois en ébullition de la femme de ta jeunesse. Et moi, je crois que quand un enfant, un couple, un mari reste amoureux, parce que si on dit de ta jeunesse, ça veut dire qu'il n'est pas très jeune. 10 ans sont passés, 15 ans sont passés, 30 ans sont passés. Qui c'est qui a 30 ans de mariage là déjà ? Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Tu peux encore être épris, enivré de tendresse de la femme de ta jeunesse. Conseil d'en haut. Et je m'en vais vers un appel et la Sainte-Seine. Pour cela, il faut inviter Jésus. Et être, se laisser inviter aux noces. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il a invité le premier miracle qu'il fait, il s'en va à des noces. Je trouve ça très fort. Jésus, premier miracle, il dit, je rentre en scène, je pose un acte extraordinaire. Il s'en va à des noces. Pourquoi ? Parce qu'il est venu pour ses noces à lui. Et il veut dire une chose. Il vient à ses noces, il est invité, et c'est le sens de mon appel ce matin. Tu vas inviter, que tu sois un vieux couple, un couple qui a de l'âge. Le vin, c'est un vieux vin, vous voyez ? Hein ? Et puis, soit que c'est nouveau, soit que tu n'es pas encore marié, invite Jésus à tes noces. Parce que s'il vient, il va changer l'eau en vin. Et je veux vous dire, la symbolique, parce qu'il aurait pu multiplier des tas de choses et faire des tas de choses ce jour-là. Il a décidé de changer l'eau en vin. C'est-à-dire que si tu l'invites, il y a possibilité, même si ça fait 30 ans de mariage, de pouvoir demander à Jésus. Il n'y a plus de vin. Ça fait 10 ans, il n'y a plus de vin. Ça fait 15 ans, il n'y a plus de vin. On boit de l'eau. On n'est pas déshydraté, on boit de l'eau. Ah oui. Enfin, Jésus dit, il n'y a pas de noces sans vin. Alléluia. Jésus fait un miracle, pas pour dire, ouais, vous allez vous enivrer pour vous enivrer. Non, il n'existe pas de noces en Dieu. Quand Dieu bénit un mariage, il veut que l'eau soit changée en vin. Oh, vous avez loupé une occasion. Pourtant, j'ai monté la voix comme ça, là. Tu vois, il a décidé de changer l'eau en vin. Voilà, là, on y est, là. On capte ça. Et ce vin, il est pour tous. Invite-le dans tes noces. Ça a 30 ans et il n'y a pas de condamnation, quoi que ce soit. Mais juste parce que tu l'invites et que tu fais ce qu'il te demande de faire. Comme dans ce passage-là, on est dans Jean 2. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il a changé l'eau en vin. Parce qu'il veut que l'amour conjugal soit rempli de joie. Il veut que l'acte sexuel se procure grandement du plaisir. On va prendre la Sainte Cène. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Nous avons jeûné cette semaine avec tout le conseil de l'Église parce qu'on croit que Dieu a donné rendez-vous vraiment à l'ensemble des membres, enfants, jeunes, ados, célibataires, couples, parents, pour qu'on invite dans nos maisons. Et on va prendre la Sainte Cène dans la foi parce que Dieu nous invite et veut nous revêtir de sa gloire. Il veut nous revêtir de son amour. Il veut nous revêtir de sa pureté. Il veut nous revêtir. Il nous invite aux noces. Et toi, tu peux l'inviter à tes noces. Même si tu n'es pas encore marié, tu te prépares à cela et tu l'invites. Et il vient ce matin pour te partager le vin, l'alliance. Je crois qu'il y a un rendez-vous. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il y a un rendez-vous avec le Seigneur qui dit, même en tant que parent, tu peux avoir besoin de mon vin. Tu peux avoir besoin de quelque chose de surnaturel pour qu'il y ait guérison, libération, relèvement. Il y a de l'espoir pour toi, quel que soit ce que tu as vécu, qui peut te paraître terrible. Quel que soit, tu te dis c'est une montagne, c'est juste impossible. Tu peux être pris, piégé dans des addictions ou autres. Le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite. Il y a un rendez-vous autour de la table. Il dit, viens à ma table. Alléluia. Assieds-toi à la table du roi. Accepte son invitation. Et toi, invite-le ce matin. Et je prie qu'au moment où nous prenons la Sainte Cène, la puissance de délivrance dans l'autorité du nom de Jésus se manifeste. Ce qu'il a accompli à la croix, parce que c'est là où il nous a délivrés, et il a restauré, il a guéri, non seulement nos corps, nos âmes, nos esprits, mais il a racheté nos histoires douloureuses, difficiles, même ce qui est comme un défi dans le cadre d'un couple, il est capable de guérir et de restaurer. Il est capable de guérir et de restaurer. Entends la voix du Seigneur qui dit, viens aux noces de l'agneau. Viens aux noces, au lieu d'intimité, au lieu de la relation avec moi, au lieu où je veux te revêtir, comme enlever la honte, l'opprobre, enlever la souffrance et la douleur et te revêtir de ma gloire. Te revêtir de ma gloire. J'aimerais que nous prenions la coupe et le sang de Jésus comme une délivrance de nos histoires douloureuses, difficiles. Et une célébration du cadeau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Juste avant de le prendre, j'aimerais que ceux qui y participent, eh bien, reçoivent comme un habit nouveau. Un habit nouveau. Ah ouais, le Seigneur dit, j'enlève un vêtement de deuil, de mort, une odeur de mort, d'échec, de souffrance juste quand on aborde cette question. Et je vais te revêtir d'habits de fête, d'habits de louange. C'est là ma parole, c'est là ma promesse pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Je propose qu'on puisse distribuer la scène. Vous pouvez commencer. Puis vous allez attendre avant de prendre. Et si les couples peuvent se constituer, les familles peuvent se constituer, on va inviter le Seigneur. Et partager la scène. Soit un moment de partage, de transmission. Et où on reçoit cette dignité, on reçoit cette gloire. Ce revêtement du Seigneur et l'œuvre de guérison, de restauration qui commence. Le Seigneur est là. Alléluia, le Seigneur est là. Partagez-le avec le conjoint. Partagez-le avec les enfants. Puis accueillez même des personnes seules, mais qui aient un sens de communion autour de la table du Seigneur. Puissance de relèvement et de guérison. Confesser que dans ce corps il y a la puissance de vie et de délivrance. Dans ce corps il y a la puissance de guérison. Dans ce sang il y a la puissance de purification. Je le déclare, œuvre sur ce support du Saint-Esprit qui vient appliquer les bénéfices de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. On attend que tout le monde. Et je vous laisse le temps d'être en communion avec quelqu'un. Ne restez pas seul, s'il vous plaît. Soyez en communion avec quelqu'un. Nous sommes un corps. Trouvez un tiers. Manifestez le corps. Discernez le corps. Allez trouver le corps et puis partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au nom de Jésus. Merci pour le chant du bien-aimé. Comme dans le cantique des cantiques, tu chantes, Seigneur, sur ta bien-aimée. Tu dis, oh, tu es belle. Oh, tu es belle. Fais-moi voir ton visage. Et tu le dis à chacun ici comme ton épouse bien-aimée. Et tu chantes le cantique des cantiques. Tu chantes sur ta bien-aimée le cantique des cantiques. Et nous répondons, Seigneur, nous sommes à toi. Tu es à nous, quelle grâce, quelle grâce. Je vous invite à partager la scène. Soyez dans la foi que la puissance de vie, de relèvement, de restauration.